Juste après le journal. Dix heures à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Toute l'info, bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une, un peu plus de 24 heures après la coupure de courant imposée par Israël à Gaza, quelles conséquences pour les Palestiniens sur place, déjà privés depuis une semaine d'aide humanitaire? Témoignage dans un instant. Le pouvoir syrien en quête d'unité alors que des affrontements ont fait plus de 1500 morts, dont plus d'un millier de civils depuis jeudi dans l'ouest du pays. Les nouvelles autorités annoncent un accord avec les Kurdes pour intégrer leurs institutions au sein de l'État. Dans ce journal également, Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, qui a décollé du Maroc avec la promesse d'un renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Et puis les Groenlandais appelés aux urnes aujourd'hui, jour d'élections législatives, un scrutin marqué par des envies d'indépendance après les menaces de Donald Trump. Une délégation israélienne à Doha, au Qatar, pour des négociations indirectes sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël a débranché l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore dans l'enclave palestinienne et qui alimentait la principale usine de dessalement de l'eau, une semaine après avoir interdit toute entrée de l'aide humanitaire sur place. Une mesure qui force, selon Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, le Hamas à prendre une décision. Témoignage à Gaza recueilli depuis Jérusalem par Sami Bourlifa.
Dès que Netanyahou a décidé de fermer les passages, les prix ici augmentent d'une façon trop difficile.
Dans le sud de la bande de Gaza à Khan Younes, Asma, autrefois professeur de français, constate impuissante la flambée des prix. Du simple au double, tout coûte plus cher, sucre, farine, fruits, légumes.
La majorité des gens ici ne peuvent pas vraiment acheter ni de la viande, ni poulet, ni... C'est déjà introuvable maintenant, ça fait 2-3 jours, il n'y a plus au marché.
Israël a également coupé le courant. Avant la guerre, 12 lignes électriques alimentaient Gaza. Quasiment toutes ont été détruites par les bombardements. La dernière, toujours en marche, alimentait une usine de dessalement d'eau de mer et une station de traitement des eaux usées. « Ça ne change rien à mon quotidien », dit Asma. Même avant la guerre, les Gazaouis utilisaient surtout des générateurs électriques qui fonctionnent au fioul et des panneaux solaires. Par contre, la pénurie actuelle de gaz affecte lourdement la population.
Vraiment, il y a une crise de gaz, il y a plein de bouteilles de gaz sont vides. Les gens sont obligés d'allumer des cartons, des choses comme ça pour avoir de feu. Pour qu'on puisse faire la cuisine.
Conséquence, le pain devient une denrée rare à Khan Younes.
Le pain, il y avait quelques boulangeries de travail. Presque ça fait 2 jours, ils ont fermé parce qu'il n'y a pas de gaz.
J'ai encore de la farine, je peux faire mon propre pain, confie Asma, sans savoir combien de temps elle pourra tenir sur ses réserves. Sami Bourlifa, Jérusalem. RFI.
Israël qui a mené hier des frappes dans le sud de la Syrie, que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, veut démilitariser. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elles ont visé les positions de l'ancienne armée syrienne et notamment un poste d'observation et des chars. La Syrie, où les nouvelles autorités sont en quête d'unité après les pires violences depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre, qui ont fait plus de 1500 morts, dont un millier de civils alaouites dans l'ouest du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est scène de liesse et de joie. Ahmed al-Sharet, le président par intérim, a annoncé hier un accord avec les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes qui contrôlent une vaste partie du nord à l'est pour les intégrer à l'État. Alors vont-ils perdre leur autonomie? Cédric Labrousse est doctorant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales.
Est-ce que l'administration du nord-est syrien est morte? C'est fort peu probable. Puisque si l'on s'en tient en tout cas au document qui nous est fourni, on note bien une intégration de cette administration au sein de l'administration globale du nouvel État syrien. Donc probablement que les Kurdes ont dû obtenir de maintenir une large part des administrations qu'ils avaient eux-mêmes établies depuis 2013 dans la région. On a un laboratoire déjà d'une forme d'autonomie régionale. C'est celle qui est actuellement pratiquée, au moins d'un point de vue sécuritaire, dans le pays druze du sud de la Syrie. Donc on sent en fait un gouvernement qui est capable, en réalité, d'accepter un principe d'autonomie. Maintenant, la mesure, c'est celle de quelle autonomie on va parler pour les Kurdes.
Des propos recueillis par Théo Renaudon. Moscou visée cette nuit par une attaque massive de drones ukrainiens qui a fait un mort et trois blessés. Une démonstration de force qui doit inciter, dit l'Ukraine, Vladimir Poutine à accepter une trêve aérienne alors que les pourparlers viennent de débuter à l'instant en Arabie Saoudite entre représentants ukrainiens et américains. Premier contact depuis la visite catastrophique de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Dans le même temps, Emmanuel Macron, le président français, reçoit aujourd'hui les responsables militaire de 30 pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Objectif, définir les garanties de sécurité à fournir à Kiev en cas de trêve et renforcer la défense de l'Europe. Il est 9h05 à Rabat. Clap de fin hier pour la visite de Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice au Maroc. Déplacement pour renforcer la coopération judiciaire entre Paris et Rabat qui a conduit à la signature d'une déclaration conjointe avec en ligne de mire la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Les précisions à Casablanca pour RFI de Mathias Reynal.
C'est la deuxième visite de Gérald Darmanin dans le Royaume en moins d'un an. Au micro des journalistes, il a salué l'excellence des relations entre Paris et Rabat. Sans le travail du Maroc, la France serait moins sûre, a même lancé le ministre de la Justice, qui a rencontré certains des hauts responsables du système judiciaire marocain, le premier président de la Cour de cassation, mais aussi le procureur général du roi près la Cour de cassation. Aux côtés de son homologue marocain, Abdelatif Wahbi, le ministre français de la Justice a conclu sa visite hier par la signature d'une déclaration conjointe sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, Paris et Rabat réaffirmant dans ce texte leur volonté d'intensifier les efforts dans ces deux domaines. Le Maroc fait figure de partenaire privilégié. À la fin du mois de février, deux Français ont été arrêtés à Marrakech, soupçonnés d'avoir participé à l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra. Gérald Darmanin a dit espérer leur extradition dans les prochains jours. En janvier dernier, le Maroc a livré également à la France Félix Bangui, le chef présumé du clan Yoda, l'un des principaux gangs de narcotrafiquants marseillais. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Menacé par Donald Trump qui souhaite en prendre le contrôle, le Groenland a rendez-vous aux urnes aujourd'hui pour les législatives au terme d'une campagne marquée par un thème fort, celui de son indépendance vis-à-vis du Danemark. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si les Groenlandais veulent devenir indépendants, mais plutôt quand. Pia Bayeul, anthropologue et chercheuse au Centre de recherche internationale de Sciences Po.
Jusqu'à présent, les sujets qui étaient mis sur le devant de la scène, c'était plutôt des sujets sociaux. Et là, les envies, enfin les velléités de Donald Trump, elles ont polarisé le débat sur la question de l'indépendance vis-à-vis du Danemark, c'est-à-dire maintenant ou pas, et aussi fait émerger tout un discours sur la colonisation et sur les impacts actuels de la colonisation au Groenland. Donc ces deux questions-là, indépendance maintenant ou pas et colonisation, ont polarisé le débat, alors que je pense que ça n'aurait pas forcément été le cas si Donald Trump n'avait pas fait émerger ce sujet-là, lui, par ses volontés impérialistes. Le parti au pouvoir Inuit Ataqatigiit, IA, ils étaient jusque-là pour un détachement plutôt lent et plutôt raisonné d'un point de vue économique, donc développer le tourisme et les mines. Mais là, c'est vrai que les annonces de Donald Trump ont poussé Mouté et Gill, le Premier ministre, à annoncer peut-être une indépendance plus tôt.
Des propos recueillis par Daniel Vallot. Les États-Unis, où le symbole du mouvement Black Lives Matter s'apprête à disparaître, la Black Lives Matter Plaza, inaugurée après le meurtre de George Floyd, un Afro-Américain, par un policier blanc en 2020, située à quelques centaines de mètres seulement de la Maison Blanche. Le reportage sur place de Guillaume Nodin.
Les engins de chantier s'activent pour retirer l'éclairage et attaquent au marteau-piqueur les grandes lettres jaunes qui forment la fresque Black Lives Matter sur toute la largeur de la chaussée. Un spectacle qui désole Joseph White, un créateur de fragrances afro-américain qui s'est arrêté sur son trajet.
Black people have paid the way for this whole...
Les Afro-Américains ont participé à la construction de la nation tout entière, de ce pays, de Washington DC. Ça dit beaucoup de ce que les politiciens pensent des Noirs. C'est juste une fresque sur la chaussée. Mais beaucoup de gens veulent l'enlever. Moi, je pense que la fresque devrait rester.
Quelques mètres plus loin, entre les journalistes qui immortalisent l'instant, Jessica Sawyer, une enseignante à la retraite, brandit une affichette Black Lives Matter. Elle est bien seule.
C'est un lundi, beaucoup de gens vont travailler. J'espérais qu'il y ait davantage d'étudiants ici, mais je suis contente que les journalistes soient là, parce qu'ils couvrent ça, et je crois que c'est important. C'était joyeux quand cette place a été créée il y a quelques années. Et maintenant, cette administration force la mairie de Washington DC à la retirer.
Les républicains menaçaient en effet de supprimer les financements fédéraux à la mairie. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Washington, où il est 5h10, 9h10, en temps universel. On vous retrouve, Caroline Paré, bonjour, pour Priorité Santé.
Oui, bonjour Alban Le Prince. Toutes ces infos, on les retrouve bien sûr sur notre site internet rfi.fr.